Bonjour, nous nous retrouvons comme chaque dimanche matin à 8h30 sur France Culture. Jean-Luc Gadreau avec vous pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France et disponible ensuite en podcast sur l'appli Radio France. Vendredi dernier 8 mars et comme chaque année depuis 1977 où l'Organisation des Nations Unies l'a officialisé, c'était la Journée internationale des femmes, une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. J'évoquais 1977, mais pour la France, c'est en 1982, sous l'impulsion d'Yvette Roudy, ministre déléguée aux droits des femmes, que la France reconnaît ce 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, pour en parler et l'évoquer avec d'autres choses également, je reçois Valérie Duval-Poujol, l'une des vice-présidentes de la Fédération protestante de France, également grande spécialiste des textes bibliques et de ceux sur la femme, notamment, plus spécifiquement. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Ce 8 mars que j'évoquais est une date qui compte pour vous, j'imagine, parce qu'entre autres, vous êtes vous-même engagé très concrètement sur ces questions du droit des femmes. Alors personnellement, avec des associations, et puis également dans une représentation féminine, protestante, au sein de l'interreligieux ou de l'œcuménisme.
Oui, tout à fait. Alors bon 8 mars, bonne journée internationale de la femme et pas qu'aux femmes parce que c'est vrai que c'est ensemble, hommes et femmes, qu'on doit porter ces questions en fait qui nous concernent et sont importantes.
Alors je précise aussi que cette émission est enregistrée et que là, en ce 10 mars, eh bien en fait dans la réalité du moment, vous êtes participante à une rencontre à l'ONU sur la question des violences faites aux femmes. Alors justement, parlons-en au présent. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre à l'ONU?
Voilà, chaque année, l'ONU invite 700 ONG du monde entier pour venir faire un état des lieux, avec aussi des représentants de chaque gouvernement, pour faire une photo un petit peu de la situation des droits des femmes. Et donc, on écoute la situation dans chaque pays, des gens de terrain, ces différentes ONG. Et les religions sont aussi présentes. Moi, j'y vais au titre de l'Alliance Baptiste Mondiale, mais on rencontre aussi les autres religions pour essayer ensemble aussi des échanges de bonnes pratiques, essayer d'écouter les bonnes initiatives, et puis être au courant, en effet, malheureusement, de la situation dramatique de nos sœurs en humanité dans beaucoup de pays.
Oui, c'est une réalité dans beaucoup de pays. La place des femmes est encore un vrai problème.
Oui, et la Covid, la pandémie a aggravé les choses et le secrétaire général des Nations Unies a parlé d'une pandémie de l'ombre pour toutes ces augmentations de violences en fait, envers les femmes qui ont été aussi suscitées par la pandémie.
Alors avec ce thème, je pense aussi à une association en particulier, ici en France, Une Place pour Elle, une association que vous avez montée et qui a pour objectif la sensibilisation sur les violences conjugales faites aux femmes et avec elle l'idée de pouvoir poser en fait un geste symbolique fort qui interpelle. Alors je vous laisse nous expliquer de quoi il s'agit.
Une Place pour Elle, il s'agit de rendre visible celles dont on ne parle pas assez en tout cas, les victimes de féminicides et les victimes plus largement de violences conjugales. Et donc on pose un geste sur une chaise avec un signe qui dit une place pour elle. Elle aurait dû être là parmi nous, mais elle n'est pas là parce qu'elle est morte sous les coups de son partenaire, de son conjoint, de son ex. Et c'est une manière, en fait, de briser le tabou et sociétalement de pouvoir ensemble parler de la question, de pouvoir se sensibiliser. Et on sait que, du coup, la sensibilisation, c'est vraiment la première étape pour réduire ce drame.
Ça représente combien de femmes tous les ans?
Alors en France, tous les 2 jours et demi, une femme meurt. C'est le féminicide. Mais en fait, en dessous, on a 2 millions de femmes qui subissent de la violence, pas que physique, mais aussi psychologique, sexuelle, économique. Et ça veut dire 4 millions d'enfants qui grandissent dans un foyer où il y a de la violence. Il y a aussi certains hommes victimes, mais la majorité sont des femmes. Et donc, il faut ensemble vraiment pouvoir œuvrer et lutter contre ce fléau.
Et alors, mettre une chaise vide comme cela, avec une place pour elle, ça produit quoi très concrètement?
C'est saisissant. C'est saisissant et du coup, ça libère la parole. C'est le propre du tabou, c'est qu'on n'en parle pas. Et là, du coup, on a vraiment remarqué que dans tous les lieux où on le fait, une mairie, une salle des profs, même un lieu de culte, eh bien, on peut libérer la parole et les gens se mettent du coup à aborder le sujet. Et ensuite, on peut faire des formations et on peut élargir du coup les horizons. Une place pour elle.
Il y a une dimension confessante au travers de vous, Valérie Duval-Poujol, mais c'est une association qui dépasse largement dans ce cadre.
Oui, elle est aconfessionnelle parce que c'est un problème qui touche tous les milieux, même si malheureusement il touche aussi les milieux chrétiens. On aurait pu penser qu'ils étaient à l'abri, mais on sait qu'il y a aussi des victimes dans les milieux chrétiens. On estime une femme sur quatre dans les dernières enquêtes européennes qui fréquente une église et qui est aussi victime de violences conjugales. Mmh. Mais en effet, c'est aconfessionnel et c'est une initiative pour tous, pour toutes, là où vous êtes, dans une bibliothèque, dans un magasin, dans une salle de théâtre. N'hésitez pas à venir sur le site pour télécharger cette pancarte.
Vous pouvez rappeler l'intitulé ?
Uneplacepourelle.fr.
Voilà. En plus, c'est très facile à mettre en place, donc c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est
gratuit,
ça qui est
accessible.
Aussi intéressant. Valérie Duval-Poujol, vous êtes une théologienne issue d'Iran, de la famille baptiste, vous le mentionniez, au sein du protestantisme. Vous êtes docteur en histoire des religions à la Sorbonne, exégète à l'Institut catholique de Paris. Vous avez aussi coordonné la révision de la Bible en français courant qui donne lieu à la sortie de la nouvelle français courant en septembre 2019 aux éditions Biblio. Alors quoi de plus logique que d'ouvrir cette Bible nouvelle français courant ce matin pour notre rendez-vous avec la parole? Et quoi de plus normal aussi que d'entendre ce très beau texte où la femme est mise en valeur dans le livre des Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 31, lu par notre dévoué Mick, artiste slammer qui devient lecteur pour Solae, et puis on en reparle juste après.
Une femme de valeur est une véritable trouvaille. Sa valeur est plus grande que celle des perles. Son mari place sa confiance en elle et ne manquera pas de ressources. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Pareil au navire marchand, elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec énergie et ses bras sont toujours actifs. Elle constate que ses affaires vont bien, elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Ses mains s'activent à filer la laine, ses doigts à tisser des vêtements. Elle tend une main secourable aux malheureux, elle est généreuse envers les pauvres. Elle ne craint pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a un double vêtement. Elle se fabrique des couvertures et porte des habits raffinés en lin rouge. Son mari est connu aux portes de la ville. Il participe aux délibérations avec les notables du pays. Elle confectionne des vêtements et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands qui passent. La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Elle s'exprime avec sagesse. Elle sait donner des conseils avec bonté. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison et elle est toujours active. Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante ses louanges. « Bien des femmes se montrent de valeur, disent-ils, mais toi, tu les surpasses toutes. » Le charme est trompeur, la beauté est passagère. Seule une femme qui reconnaît l'autorité du Seigneur est digne d'éloge. Que l'on récompense son travail, que l'on chante ses mérites aux portes de la ville.
Bon, Valérie, c'est un texte ancien, dans un contexte particulier. C'est un texte qui a souvent suscité toutes sortes de réactions, qui n'a pas forcément été toujours bien compris. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, alors c'est vrai que cette femme, certains ont dit qu'en fait c'était l'épitaphe sur sa tombe parce qu'elle était morte d'un burn-out tellement elle faisait de choses. Mais en fait, ce qui est très beau, c'est de voir ici que son portrait, donc en hébreu, chaque phrase commence par une lettre différente de l'alphabet pour nous montrer vraiment la complétude ici de tout ce qu'elle accomplit. Mais c'est son énergie créatrice, c'est combien elle est déterminée. Vous aurez remarqué que le portrait passe sous silence son apparence physique, hein, qui souvent est la première ou le tout de quelqu'un qu'on présente, surtout une femme. Là ici, on voit bien plutôt aussi comment elle est déterminée, ses engagements, notamment auprès des plus vulnérables. Bien sûr, il faut actualiser. Je crois que ce qui nous a pas aidé, Jean-Luc, c'est aussi les traductions sexistes de ce texte. C'est vrai que pendant longtemps, les traducteurs de la Bible ont été des hommes. Oui. Et ici, on appelait cette femme la femme vertueuse, en moralisant évidemment ce portrait, alors que l'hébreu nous parle de Eshet Ra'il, une femme de valeur, une femme de valeur. Et là, du coup, c'est beaucoup plus recevable, avec évidemment un besoin d'actualiser sans être dans la lettre là,
oui,
du
oui.
texte.
Alors, les gens gens qui seraient intéressés justement à aller plus loin sur ces questions-là peuvent lire un très bon livre qui s'appelle « La Bible est-elle sexiste ?» aux éditions Empreinte Temps Présent. Et l'autrice, eh bien c'est vous Valérie.
Oui, c'est une question qu'on me pose très souvent. Voilà, je donne des formations très régulièrement dans les églises et chaque semaine. Eh bien, des femmes venaient me poser la question. Elles trouvaient qu'il y avait un écart entre ce qu'elles percevaient de Dieu et ce qu'elles lisaient dans les textes, où elles trouvaient que Paul, l'apôtre Paul, était trop misogyne.
Oui, un peu dur
donc,
des fois.
Voilà, et donc j'ai voulu faire un panorama, un parcours biblique de la Genèse en passant par Jésus jusqu'à Paul pour montrer qu'en fait la Bible est une bonne nouvelle, c'est la traduction d'évangile, c'est une bonne nouvelle aussi pour les femmes et que ben voilà, elles ont vraiment leur place et qu'elles peuvent tout à fait du coup aussi dans ces textes trouver un encouragement.
À propos de Bible, grande passion pour vous donc Valérie, on le comprend. Vous avez aussi mis en place un site internet pour former, accompagner à sa lecture et à sa compréhension et c'est accessible à tous, www.ouvronslabible.com et quand on fait cette adresse sur internet, on découvre quoi ?
Alors, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient soif de formation et soif d'aller plus loin. Et qu'avec la Covid, eh bien, on s'est tous un petit peu familiarisés aux techniques de visioconférence. Alors, j'ai voulu mettre à disposition l'enseignement qu'on donne en faculté, où on peut creuser les textes, de le rendre accessible au plus grand nombre en visio. Donc, il y a notamment la possibilité de s'inscrire pour des soirées en visio. Alors, depuis chez soi, en chaussons, on peut creuser les sujets sur Bible et racisme, les femmes de la Bible, comment la Bible est devenue la Bible. Et on vit, du coup, un très beau temps ensemble, de questions-réponses aussi, et ça permet de rendre encore plus accessible ce texte.
Sans besoin d'être protestant, sans besoin d'être croyant même.
Voilà, ouvrons la Bible est un patrimoine de l'humanité, et donc c'est vrai que ça s'adresse à tout le monde.
Allez, pour joindre en musique Bible et femmes, comme un cadeau que je vous fais, Valérie, je ne sais pas si vous le connaissez, une chanson, la cananéenne, interprétée par Manic, extraite de son album Femmes de la Bible. Alors c'était un disque vinyle sorti en 1980 au studio SM, qui a été réédité depuis en numérique en 2000 par Bayard Music. On écoute cette chanson.
Aussitôt que je l'ai vu, j'ai parlé de toi. Il n'a même pas répondu la première fois. Tous les hommes autour de lui voulaient me chasser. Il venait peut-être ici pour se reposer. Le suivait, mais pour que tu sois guéri, j'aurais fait n'importe quoi pour toi, mon enfant chéri, ma toute petite à moi. Il m'a dit, je suis venu pour donner mon pain aux enfants de mon pays, pas aux petits chiens. Moi j'ai dit, les petits chiens dont tu veux parler mangent les miettes de pain quand elles sont tombées. Je n'étais pas de sa race et je n'avais pas ma place parmi les gens qui le suivaient. Mais pour que tu sois guéri, j'aurais fait n'importe quoi pour toi, mon enfant chéri, ma toute petite moi.
Manic, la cananéenne, extrait de Femmes de la Bible. Nous retrouverons Manic pour une autre chanson en fin d'émission, Je suis Ève. De très belles histoires dans la Bible, de femmes, de rencontres avec des femmes.
Oui, merci pour ce cadeau Jean-Luc, en fait. Et puis c'est bon de se rappeler combien Jésus a eu une attitude vraiment révolutionnaire par rapport à son époque, dans les rencontres qu'il a avec différentes femmes, qu'il choisisse des femmes comme premier témoin de la résurrection, qu'il ait des femmes dans son entourage de disciples. Et du coup, voilà, il a vraiment inauguré une nouvelle ère. Petit à petit, il y a eu ensuite repatriarcalisation de l'Église, mais en tout cas, ce souffle, on va dire vraiment que Jésus a insufflé pour une nouvelle communauté de disciples, égaux, femmes et hommes, nous inspire encore aujourd'hui.
Soleil, le rendez-vous protestant, la place de la femme dans l'Église protestante, elle est comment ?
Oui, alors c'est dur d'essentialiser et d'avoir une réponse globalisante sur la femme en général ou la femme protestante. Nous avons eu en novembre dernier un dîner des protestants qui honorait les femmes, leur engagement et aussi toute leur histoire. Et donc c'est vrai qu'on a un héritage formidable. Je pense à Blanche Perron qui crée le Palais de la Femme. Je pense aux premières femmes pasteurs. Et voilà, on a vraiment toute une histoire là de femmes engagées qui ont changé la société, mais aujourd'hui encore, du coup, qui sont très mobilisées et très militantes. Dans les églises protestantes, il y a une très grande diversité, avec certaines églises qui ont des femmes pasteurs ou même présidentes de leur union, et puis d'autres églises où c'est encore
un peu
débat.
Plus... Oui, oui. Nous avons parlé des femmes, de la Bible, mais il y a aussi d'autres choses dans lesquelles vous êtes engagés. Et justement, vous évoquiez au travers du protestantisme le dîner des protestants tout récemment. La Fédération protestante, par exemple, où vous êtes donc, comme je l'évoquais en début d'émission, vice-présidente et impliquée aussi depuis de nombreuses années dans différents services, engagements notoires, comme par exemple aussi le travail qui avait été fait autour du lien fraternel il y a quelques années.
Le lien fédératif, oui, tout à fait. La Fédération protestante, c'est une grande famille et c'est une immense joie, en fait, de pouvoir découvrir la diversité, la richesse. On le dit souvent comme un mot, voilà, un mot un peu banal, la diversité du protestantisme, mais c'est un véritable cadeau. Et aujourd'hui, c'est même prophétique de pouvoir, au sein d'une même fédération, travailler ensemble alors qu'on est si divers, et de pouvoir montrer que c'est possible dans le respect des différences. Hein, je ne change pas forcément du coup de conviction, mais je suis à l'écoute de celles des autres et de pouvoir œuvrer ensemble pour ensemble être témoin d'espérance dans cette société.
Et le rôle d'une vice-présidente dans une grande fédération comme cela, c'est... Vous êtes deux d'ailleurs.
Oui, voilà, tout à fait. Eh bien, il y a bien sûr l'accompagnement de différents chantiers. Hein. Moi, je m'occupe particulièrement notamment de la question des violences sexuelles en protestantisme. On sait qu'il y a eu la SIAZ du côté catholique et un gros travail fait par nos frères et sœurs catholiques. Et nous, en protestantisme, comment est-ce qu'on gère cette question? Donc, on peut être en charge d'un dossier particulier et puis suivre aussi toutes les affaires courantes pour le bureau, pour le conseil et dans la discussion aussi avec le président.
Valérie Duval-Poujol, vous parliez d'écuménisme. Eh bien, les choses vont naturellement aussi vers cela. En 2014, vous étiez déléguée fraternelle au synode extraordinaire catholique sur la famille au Vatican. Avec ce souvenir, c'est aussi votre engagement dans l'écuménisme auquel je pense. Qu'est-ce que cela représente justement pour vous? Pas toujours facile, j'imagine, d'être femme dans ces milieux-là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que la Bible nous dit qu'en se convertissant, on a des frères et sœurs en Christ. Et c'est vrai qu'on ne choisit pas forcément sa fratrie. Et ici, moi, ce qui me frappe, c'est que moi-même, étant descendante de Huguenots, persécutée, eh bien, de me rendre compte aussi tout le chemin parcouru. Et qu'aujourd'hui, on vit dans une ère de collaboration. On vit à l'ère de traduction œcuménique ensemble, de diaconie ensemble. Et notamment, l'Église catholique, en ce moment, qui a ce processus de réflexion sur la synodalité, c'est-à-dire comment décider ensemble la gouvernance, eh bien, j'étais invitée aussi en octobre dernier à participer à ce synode-là et en octobre prochain à nouveau. C'est beau de voir qu'on réfléchit aujourd'hui ensemble, non seulement aux questions de société, mais aussi à comment on peut faire église chacun. Et donc cet échange de dons, voilà une des définitions de l'œcuménisme, cet échange de dons est passionnant.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qui pourrait aider à ce que les choses changent dans ces domaines-là?
Alors l'œcuménisme a différents niveaux, il y a un œcuménisme institutionnel, mais il y a aussi d'abord un œcuménisme spirituel. Ça, c'est une conversion de chacun et de chacune, de se dire, eh bien là où je suis, l'endroit où je suis, quel est le frère ou la sœur que je ne connais pas encore bien et vers qui je pourrais aller pour être à sa rencontre, l'écouter. Peut-être justement si j'ai l'impression qu'il y a plus qui nous sépare, alors qu'en fait, il y a plus qui nous rassemble.
Mmh. On a évoqué votre passion aussi pour la Bible. J'ai évoqué aussi le fait que vous aviez coordonné le travail sur la nouvelle Bible français courant. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi, nous dire quelques mots sur le travail de traduction? Pourquoi décider de revoir un texte? Qu'est-ce qui change et comment on procède?
Nous avons la chance en langue française d'avoir une vingtaine de traductions aujourd'hui disponibles, certaines traductions confessionnelles comme la Seconde pour les protestants ou certaines traductions, on va dire, plus interconfessionnelles. C'est le cas de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, ou la Nouvelle Français Courant. Mais voilà, la langue évolue, la langue change et c'est important aussi. Tous les 20-30 ans, on fait une révision en fait, comme on fait pour les voitures régulièrement. Voilà, pour les Bibles, on fait aussi des révisions parce que la langue évolue. Voilà, lorsqu'on lit dans l'évangile de Luc que Marie partit en diligence pour nous dire qu'elle partira rapidement, évidemment, la langue a évolué. Ou quand on nous parle de bête ou d'animal taré, ça veut dire qu'il porte une tare. Mais voyez, oui, on ne peut plus tout à fait employer ces expressions-là. Et puis, nous avons eu le souci, dans la nouvelle français courant, d'un langage épicène, inclusif. C'est-à-dire que lorsque le grec et l'hébreu incluaient les femmes, oui, que dans le texte français aussi,
ça ne soit pas les hommes,
elles soient, voilà, elles soient visibles, de lutter contre cette invisibilisation. J'ai parlé tout à l'heure de traduction sexiste de la Bible. Et bien justement, là, la nouvelle français courant a vraiment eu comme souci de rendre justice à ces textes qui ne l'étaient pas, mais qui parfois l'ont été rendus par des traductions sexistes.
Vous auriez un exemple, justement ?
Oui, alors en grec, on a ce mot anthropos qui a donné l'anthropologie, qui, ouais, veut dire homme et femme. Et la langue française, comme beaucoup de traductions bibliques françaises, avait décidé de le rendre par homme. Et donc, on avait simplement des hommes partout, mmh, alors qu'en grec, évidemment, quand Paul nous dit que l'enseignement, c'est pour des hommes de confiance, dignes de confiance, il veut dire en fait des personnes dignes de confiance. Ouais. Et il avait dans son entourage des enseignantes remarquables comme Priscilla, qui était elle-même enseignante d'enseignants.
Nous sommes là aussi dans une période particulière de l'année, celui qui nous conduit vers Pâques, avec notamment pour nous ici sur France Culture, le carême protestant. Chaque dimanche à 16h, je recevrai cet après-midi Philippe de Paul, aumônier à la Fondation John Bost, pour continuer sur le thème « Toutes et tous à l'image de Dieu ». Il reviendra justement sur le récit d'une guérison donnant à voir la foi dans une époque où le saint S-A-I-N n'était pas encore distinct du saint S-A-I-N-T, ni la santé de la sainteté. Difficile donc de dire quelle différence il pouvait y avoir entre soigner et sauver. En prenant soin d'un paralytique, Jésus va apporter son soutien aux quatre porteurs qui se sont tournés vers lui pour trouver le salut de leurs compagnons. Le principal handicap qu'ils ont rencontré sur leur route sera la foule des valides qui rendait le lieu inaccessible. Mais la foi déplace les montagnes et défonce les plafonds, fussent-ils de verre. Cet après-midi à 16h avec Philippe de Paul. Mais deux questions encore, Valérie, avec ce que je viens de dire sur notre rendez-vous de cet après-midi. J'imagine que les plafonds de verre, cette expression qu'on utilise si souvent, ou autres freins invisibles, sont justement des choses que vous souhaitez voir disparaître, que ce soit bien sûr pour le handicap, la position des femmes également, ou peut-être même d'autres domaines encore.
Oui, tout à fait, et il n'y a pas de fatalité. Il faut prendre conscience des mesures qui ont marché. Je vois qu'à la Fédération protestante, on a mis en œuvre des quotas, en fait, pour une parité. Alors certains discutaient, hein, de la question des quotas, de la parité, mais on se rend compte que ça porte une efficacité en exigeant que dans chaque commission, dans chaque groupe de travail, dans chaque conseil, instance de direction, on encourage aussi la présence de femmes. Et donc, voilà, essayer de réfléchir à des échanges de bonnes pratiques. Qu'est-ce qui marche? Et c'est une façon aussi de faire bouger ce plafond de verre. Il n'y a pas de fatalité.
C'est parfois par des petits détails comme ça, des choses qu'on met en place.
Oui, alors c'est plus que des détails ici, quelque chose de structurel aussi, oui, qui touche à nos structures, pour justement lutter contre cette invisibilisation et d'être proactif, en fait, de, voilà, pas simplement attendre. Moi, j'ai toujours été frappé par cette citation de Simone de Beauvoir, puisqu'on vient d'avoir le 8 mars, on lui doit énormément. Elle disait bien que rien ne serait jamais acquis dans cette égalité femmes-hommes et que chaque génération devait aussi se battre. Et je crois que nous sommes, nous, ici, 2024, au bénéfice de ce que les femmes pionnières qui nous ont précédées ont acquis, ont permis. Mais c'est aussi à notre génération de poursuivre ce combat pour l'égalité. Mais c'est avec les hommes aussi que nous voulons le mener.
Alors j'avais dit deux questions, une dernière, toujours en écho au rendez-vous de cet après-midi. Jésus prend soin de ce paralytique, et vous me voyez peut-être venir prendre soin les uns des autres, c'est la thématique 2024 de la FPF.
Oui, c'est un très beau thème. Je crois que dans une société où il y a beaucoup de repli identitaire ou de communautarisme, de se rappeler ce message évangélique, c'est-à-dire ici des évangiles, de prendre soin les uns des autres, de s'aimer les uns les autres comme soi-même, là il y a vraiment quelque chose de prophétique.
Eh bien, merci beaucoup Valérie Duval-Poujol. Puisque nous sommes enregistrés et qu'aujourd'hui vous serez aux Nations Unies, je me permets de vous souhaiter le meilleur dans cette rencontre. Et puis à bientôt dans Soleil, le rendez-vous protestant.
Merci.
Avant de nous quitter, place à notre chronique du deuxième dimanche du mois, celle des Amitiés Huguenotes Internationales. Elle est écrite par Thierry Rousset, nous est livrée par Édouard Vandeventer. Bonjour Édouard.
Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Comme dirait André Gide dans son journal daté du 27 janvier 1912, l'admiration de la montagne est une invention du protestantisme. Rien d'étonnant que les protestants regardent vers la montagne, tellement présente dans la Bible. Depuis l'arche de Noé échouant sur une montagne, la révélation des tables de la loi à Moïse au Sinaï, Élie au mont Horeb, jusqu'à Sion, la montagne du Temple. Sans oublier les épisodes clés de la vie du Christ, les béatitudes, l'arrestation au Mont des Oliviers, la crucifixion ou encore la transfiguration. Plus près de nous, les Alpes occidentales ont un lien historique avec le protestantisme. En Suisse, bien sûr, mais en France également, où le calvinisme se diffuse largement dans le Dauphiné, sous l'impulsion de Farel. Alexis Muston, en 1851, rend hommage à l'épopée des Vaudois du Piémont dans l'Israël des Alpes. Lors de la glorieuse rentrée, en 1689, les Vaudois réfugiés à Genève parcourent 200 km jusqu'à Torre Pellice via le Mont Cenis. Aujourd'hui, les randonneurs aguerris parcourent le sentier international des Huguenots français et des Vaudois italiens à travers quatre pays, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne et la France. L'alpinisme trouve sa source en Suisse. Le naturaliste Konrad Gessner, né en 1515 et mort en 1565, neveu du réformateur Zwingli, publie en 1541 le premier livre consacré à la description d'une montagne, le Mont Pilate. Un autre Zurichois, lié à Gessner, le pasteur Josias Simler, écrit le premier ouvrage consacré à la description des Alpes en 1574, des Alpibus Commentarius. En 1779, le genevois Horace Bénédicte de Saussure publie la chronique de son premier voyage dans les Alpes. Cette passion exploratrice donne d'ailleurs lieu à la conquête du Mont Blanc. Si les chamoniards Balmain et Paccard, les premiers à gravir le Mont Blanc le 8 août 1786, ne sont pas protestants, l'expédition a été patronnée par deux protestants genevois, Horace Bénédicte de Saussure et Marc-Théodore Bourri, par ailleurs chantre à la cathédrale de Genève. Le premier club alpin est fondé quant à lui par des protestants anglais en 1857. C'est ce qui fait dire à l'historien Philippe Joutard que l'alpinisme est une invention protestante. Dans les nombreux sillages de ces ascensionnistes protestants, un symbole en est le pasteur anglican Coolidge, qui effectue plus de 1700 ascensions et donne son nom au pic Coolidge. Nombreux sont les explorateurs, voyageurs et écrivains de culture protestante à exalter la montagne. Jean-Jacques Rousseau, Alexandra David Neal, Ella Maillard, pour ne citer que les francophones, sans oublier Johanna Spyri, la créatrice de Heidi, imprégnée de piétisme. Le rapport protestant à la montagne puise sa source dans la curiosité scientifique, selon la grande tradition des protestants géographes et explorateurs. S'y incarne une éthique de vie, par le dépassement de soi, la sobriété et l'esprit de corps, propre à l'ascèse calviniste.
Merci Édouard Van Deventer, et comme le chantait si bien Ferrat, que la montagne est belle. Et merci aux amitiés Huguenotes internationales que vous pouvez retrouver sur internet à l'adresse www.huguenot.fr.
Ève, Ève, je suis Ève à la folie. Ève, Ève, je suis Ève et je souris. Dans mon grand pays de rêve, tout s'éclaire et je me dis que vous n'avez rien compris.
C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire et avec Claire Levasseur à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Pour ma part, je vous retrouve à 16h pour le carême protestant. Bon dimanche à chacune et chacun sur France Culture, avec à suivre les informations, puis Talmudique, présenté par Marc-Anna Wacknin.
Je suis Ève à la folie. Ève, Ève, je suis Ève et je souris. Dans mon grand pays de rêve, tout s'éclaire et je me dis que vous n'avez rien compris. Fallait-il que je reste en friche pour ne pas risquer de vieillir? Déserte à force d'être riche, ignorant douleur et plaisir. J'ai quitté ma première enfance quand mes fruits sont devenus lourds. Dans l'arbre de ma connaissance venait de se lever le jour. je souris. Dans mon grand pays de rêve, tout s'éclaire et je me dis que vous n'avez rien compris. Fallait-il que je reste fille dans le verger de mes parents? Comment fermer dans ma coquille pour être une éternelle enfant? Mais je ne suis devenue femme que lorsque j'ai quitté mon nid. Cela ne s'est pas fait sans larmes. On en parle encore aujourd'hui. Ève, Ève, je suis Ève à la folie. Dans mon grand pays de rêve, tout s'éclaire et je me dis que vous n'avez rien compris.